Le Monde de demain, mai-juin 2021. Marie, la mère des nations, écrit par Douglas Winnell et interprété par Jake Boyer. L'article commence. Pour les catholiques à travers le monde, le mois de mai est dédié depuis longtemps à la dévotion de Marie, la mère de Jésus-Christ. Comme le pape Paul VI l'avait écrit dans son encyclique Mens Maio, mai est le mai où, dans les sanctuaires comme dans les foyers, l'hommage de la prière et de la vénération monte des cœurs chrétiens vers la Vierge Marie, avec plus de ferveur et d'affection. C'est aussi le mois où du trône de la Mère de Dieu se répandent plus largement sur nous les dons de la miséricorde divine. En tant que femme humaine ayant donné naissance à Jésus-Christ, le Logos ou la parole, le porte-parole de Dieu, qui naquit en tant qu'humain à part entière, Marie a reçu une bénédiction très spéciale. Assurément, une grâce lui a été faite par Dieu, Luc 1, verset 28. Être le parent humain de Dieu dans la chair était un rôle extraordinaire et Dieu estima que Marie était digne de ce rôle. Elle ne comprenait pas tous les aspects de la mission de Jésus et celui-ci, Dieu le lui rappelait lors des noces de Cana. « Mon heure n'est pas encore venue. » Jean 2, verset 4. Cependant, de nombreux aspects de la vie privée de Jésus furent confiés à cette femme dès sa naissance, Luc 2, verset 19, et il l'aima réciproquement tout au long de sa vie. Même lors de la crucifixion, alors qu'il portait les péchés de toute l'humanité, il démontra son amour filial envers Marie en s'assurant qu'elle soit prise en charge après qu'il sera mort, Jean 19, verset 25 à 27. Mais comment des traditions se sont-elles développées au point que cette fidèle disciple du Christ finisse par être considérée par certains comme son égale, voire sa co-rédemptrice, en la vénérant comme une déesse à part entière? Cela ne faisait assurément pas partie des enseignements de l'Église du 1er siècle. De nombreux érudits reconnaissent que cette importance accordée à Marie était totalement absente dans l'Église originelle. Vu que cette doctrine n'apparaît pas, du moins explicitement dans les formes originelles du credo des apôtres, il n'y a pas lieu d'être surpris lorsque nous ne trouvons aucune trace claire du culte de la Sainte Vierge au 1er siècle de l'ère chrétienne. D'où viennent donc ces idées? De nos jours, certains vénèrent Marie en tant que la Reine du Ciel ou Notre-Dame de tous les peuples, des titres qui n'ont aucun sens d'un point de vue strictement biblique. Nous devons nous souvenir que Jésus est venu dans un monde dominé par la culture gréco-romaine qui influença les premières distorsions des véritables enseignements de Jésus. À travers l'Empire romain, la population adorait un grand éventail de dieux et de déesses qui portaient des noms différents selon les régions, mais qui étaient considérés comme étant les mêmes êtres. Les statues de ces divinités étaient souvent abritées dans des sanctuaires et des temples magnifiques. Elles étaient adorées au moyen de cérémonies élaborées qui incluaient parfois des rituels secrets et de la prostitution sacrée dans le temple. Les fêtes en l'honneur de ces dieux étaient des jours fériés qui rythmaient le calendrier social. Le temple d'Artémis à Éphèse, une des sept merveilles du monde antique, acte 19 au verset 21 à 40, en apporte un exemple révélateur. En 431 après Jésus-Christ, le troisième concile écuménique de l'Église catholique se réunit à Éphèse et déclara Marie la mère de Dieu, ainsi que l'objet des prières et de dévotion. Mais pourquoi Marie reçut-elle ce titre? Et pourquoi la cité d'Éphèse fut-elle choisie pour annoncer ce nouveau dogme? D'autres Maries avant Marie? La déesse Artémis d'Éphèse, Diade chez les Romains, était révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Acte 19, verset 27. Artémis était la déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage et de la chasteté, ainsi que de la fertilité. Souvent représentée comme une vierge et considérée comme la maîtresse des animaux. Ses statues représentaient une femme aux multiples seins portant une couronne tourelée. Artémis reprenait de nombreuses caractéristiques de la grande déesse mère qui était adorée sous différents noms dans le monde antique. L'Encyclopédie des dieux précise qu'Artémis est une divinité aux origines très anciennes qui a survécu et qui a atteint une grande popularité en Asie mineure et en Grèce à l'époque chrétienne, lorsqu'une grande partie de son éthos fut transférée à la Vierge Marie. Toutes les deux ont eu de grands sanctuaires à Éphèse. en bâtissant une église pour Marie à Éphèse, près du grand temple de la déesse mère Artémis, et en la déclarant mère de Dieu, l'Église catholique ne fit qu'emprunter et adapter d'anciennes traditions qui permirent aux nouveaux convertis de poursuivre leurs pratiques païennes dans un contexte chrétien. D'où viennent les titres Mère de Dieu et Reine du Ciel? Plus de 1000 ans avant les Romains, les Hittites adoraient déjà une grande déesse mère en Asie mineure. Sur le flanc d'une colline près de Sardes se trouve un immense rocher sculpté à l'effigie d'une déesse mère que les anciens poètes Homère, Ovide et Sophocle ont décrit comme la mère des dieux, la plus ancienne déesse de toutes. Sur les statues et les reliefs sculptés, cette divinité hittite remplissait tous les aspects d'une déesse des cieux ou de la reine du ciel, un aspect familier Astarté. Astarté était la déesse phénicienne de la guerre, de l'étoile du soir, de la sexualité et de la fertilité. La prostitution sacrée faisait partie de son adoration. Elle était souvent dépeinte nue, portant une couronne avec des cornes de vache encerclant un disque solaire, semblable à la déesse égyptienne Isis. L'armée romaine répandit l'adoration de cette ancienne déesse hittite à travers l'Europe, de l'Allemagne à la Grande-Bretagne, car son culte devint très populaire parmi les soldats. La Madone à l'enfant. Qu'en est-il de la Madone ou de la Vierge à l'enfant? En Égypte, Isis était adorée comme une des divinités les plus élevées. Elle était généralement représentée assise sur un trône, tenant l'enfant Horus. Isis et Horus étaient considérés par les Égyptiens comme la mère et l'enfant parfait. À partir de l'Égypte, l'adoration d'Isis s'est répandue à la Grèce et à Rome, où elle était appelée Stella Maris, l'étoile de la mer, la patronne des marins et la reine du ciel. De nombreux érudits notent que le culte d'Isis a influencé la représentation de la Vierge Marie chrétienne, qui était aussi connue comme Stella Maris, et dont les portraits avec le Christ représentent souvent une similarité frappante avec ceux d'Isis et Horus. Il est clair que les premiers chrétiens ont transféré certains des attributs d'Isis à la Vierge Marie. Les images et les sculptures la représentant en train d'allaiter son enfant Horus sont la source d'inspiration des statues et des peintures chrétiennes de la Madone à l'enfant. De nombreuses hérésies de l'Église chrétienne naissante en Égypte furent causées par la survie des idées et des croyances en lien avec les anciens dieux locaux que les convertis au christianisme souhaitaient adapter à leur nouveau credo. Dans certaines régions d'Égypte, en 400 après Jésus-Christ, la Vierge Marie et le Christ avaient remplacé Isis et Horus à la déesse mère, où la mère de Dieu n'était plus Isis, mais Marie. C'est ainsi que l'adoration d'une déesse mère a commencé à faire partie d'un soi-disant christianisme sous le prétexte non biblique d'une dévotion à l'égard de la mère du Christ. Les croyants qui n'avaient de convertis que le nom adoptèrent ce christianisme en apportant avec eux leur dévotion à une déesse mère et les titres la désignant. Ce phénomène n'avait rien de nouveau. Nous lisons dans la Bible que les anciens Israélites, y compris Salomon, se détournèrent de Dieu afin d'adorer Baal et Astarté, aussi appelés Asherah ou Astoreth, dont les rituels impliquaient la prostitution sacrée. La Bible mentionne aussi que des femmes tissaient des tentures pour une statue de cette déesse qui avait été placée dans le temple de Dieu. 2 Rois 21, versets 1 et 7, chapitre 23, versets 6 et 7. Les historiens rapportent qu'Asherah était la grande déesse mère de Canaan. Les érudits relient Astoreth à la déesse babylonienne Ishtar, à la phénicienne Astarté et à la grecque Aphrodite, des déesses de la fertilité dont l'adoration comprenait aussi la prostitution sacrée. Ishtar était la déesse la plus importante de l'Antiquité dans le Moyen-Orient, notamment à Babylone et à Ninive. Elle était la déesse de la guerre et de la sexualité. Elle était appelée la reine de l'univers, la protectrice des prostituées et la patronne des auberges. Son culte, dont la prostitution sacrée, était répandu et populaire. Ishtar était aussi adorée sous le nom d'Inanna en tant que déesse de l'amour et de la guerre. Elle était appelée la reine du ciel. Anat était une autre déesse cananéenne et phénicienne de la fertilité, sœur de Baal et fille du dieu soleil. Elle était appelée la dame de la montagne, la mère des dieux, la reine du ciel et la vierge Anat. La Bible et l'histoire montrent clairement que les anciens Israélites, comme l'Église catholique naissante, empruntèrent l'adoration d'une déesse mère avec ses titres à leurs voisins païens. Mais pourquoi est-ce important et en quoi cela nous concerne-t-il de nos jours? Quelle importance? Lorsque Dieu amena les anciens Israélites hors d'Égypte, il leur ordonna « Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Vous ne vous ferez point d'idole. » Exode 20, versets 4 et 5, Lévitique 26, verset 1. Cependant, ils commencèrent rapidement à adorer un veau d'or, et ils furent punis pour cette action. Exode 32. Les Israélites avaient aussi reçu de Dieu l'instruction claire de ne pas adopter les pratiques païennes qu'ils considèrent comme des abominations. « Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. » Mais ces avertissements furent régulièrement ignorés par les Israélites qui se tournèrent vers l'adoration de Baal et Astoreth, la déesse mère des Cananéens, leur reine du ciel. En raison de ces péchés, y compris la pratique d'embrasser leurs idoles, l'ancienne nation d'Israël provoqua la colère de Dieu et elle fut emmenée en captivité en Assyrie. La nation de Juda commit les mêmes erreurs. Ses habitants provoquèrent la colère de Dieu en offrant de l'encens à la reine du ciel, en lui faisant des libations et en lui préparant des gâteaux pour l'honorer. Jérémie 44, verset 19. L'image qu'ils adoraient en tant que reine du ciel était la déesse babylonienne Ishtar. D'autres rituels consistaient à pleurer pour Tammuz, l'époux décédé d'Ishtar, et à se prosterner à l'Orient devant le soleil. Ézéchiel 8, verset 10 à 18. Ces pratiques continuent de nos jours en célébrant des cérémonies de l'aube, le dimanche de Pâques, ou en préparant des brioches croisées pour le Vendredi Saint dans le monde anglo-saxon. La Bible révèle que ce ne sont pas des sujets triviaux aux yeux de Dieu, mais des abominations qu'il hait. La nation de Juda passa 70 années en captivité à Babylone comme punition pour son idolâtrie. Les premiers dirigeants de l'Église catholique qui permirent aux gens de conserver leurs traditions païennes sous de nouveaux noms chrétiens ont suivi ce même raisonnement erroné consistant à ignorer les instructions bibliques. La Bible avertit que les nations qui suivent cet exemple, en adoptant et en adaptant des pratiques païennes, endureront un sort similaire. Jérémie 16, versets 10 et 13. La Dame de l'Europe et du monde. De 1945 à 1959, une Hollandaise d'Amsterdam déclara avoir reçu plus de 50 visions de Marie. Bien que l'archevêque catholique d'Amsterdam ne se prononça pas sur la légitimité de ces visions, la dévotion envers Notre-Dame de tous les peuples, il s'agirait du nom que cette figure se serait donnée, s'est répandue à travers les Pays-Bas, dans une partie de l'Europe et même au-delà. Il est intéressant de noter que la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une notification plutôt sceptique exhortant les catholiques à exprimer leur dévotion à Marie, reine de l'univers, sous les formes reconnues et recommandées par l'Église. Pourquoi y a-t-il un intérêt croissant autour de Marie, qu'elle soit appelée la reine de l'univers, la reine du ciel ou Notre-Dame de tous les peuples ? Les Écritures révèlent que juste avant le retour de Jésus-Christ, une puissante bête, composée de 10 nations, émergera en Europe à partir des cendres de l'ancien empire romain. Daniel 2 et 7, Apocalypse 13 et 17 et 18. Cette confédération sera chevauchée par une femme, une église riche et puissante, décrite comme une reine dont l'origine remonte à l'ancienne Babylone et comme la mère des prostituées. D'autres églises égarées, qui a enivré le monde avec ses fausses doctrines. Apocalypse 18, verset 7 et chapitre 17, verset 1 à 6. Cette femme, appelée fille de Babylone et souveraine des royaumes, Ésaïe 45, verset 1 et 5, prétendra être la véritable église en déclarant « C'est moi et il n'y en aura pas d'autre ». Ésaïe 47, verset 7 à 9 et Apocalypse 18, verset 7 à 8. Elle conduira un mouvement à la fin des temps pour ramener ses enfants qui s'étaient séparés de leur église mère. L'Europe est un terrain fertile pour ce développement. Les catholiques ont déjà consacré plusieurs régions européennes à Marie. En 1996, le pape Jean-Paul II a qualifié le sanctuaire de Notre-Dame de l'Europe, établi en 1309 par le roi Ferdinand IV d'Espagne, de symbole puissant pour l'unification de l'Europe et un lieu où, sous le patronage de Marie, la famille humaine se rapprochera encore davantage dans une unité fraternelle et une coexistence paisible. Pour ceux qui comprennent les Écritures et l'Histoire, il est significatif de noter que le sanctuaire se trouve à proximité d'une grotte où, 7 siècles avant le Christ, les marins phéniciens avaient établi un sanctuaire pour Astarté, leur propre reine du ciel. L'Europe actuelle est également inondée de symbolisme marial. Le Conseil de l'Europe célèbre ainsi la Journée de l'Europe le 5 mai, le même jour que celui dédié à Notre-Dame de l'Europe. L'UE célèbre pour sa part cette journée le 9 mai. Le drapeau de l'Union européenne, un anneau constitué de 12 étoiles dorées sur un fond bleu, est issu des images de la Madone arborant un halo de 12 étoiles autour de la tête. À Strasbourg, en France, où se situe le siège officiel du Parlement européen, la cathédrale arbore un vitrail de l'Europe représentant une Madone à l'enfant avec une couronne de 12 étoiles sur fond d'azur. Une utilisation à venir de Marie. Alors que l'Europe progresse pour remplir son rôle prophétisé dans les événements religieux et politiques de la fin des temps, quel rôle Marie va-t-elle jouer? Beaucoup de ceux qui rejettent les religions traditionnelles patriarcales sont prêts à adorer une figure maternelle. Marie est même présente dans l'islam. Elle est une personnalité vénérée dans le Coran. Un des sanctuaires mariaux les plus célèbres se trouve au Portugal, dans le village de Fatima, qui porte le nom d'une des filles de Mahomet. L'évêque Fulton John Sheen mentionna que lorsque des statues de Notre-Dame de Fatima étaient exposées dans des pays musulmans, de grandes foules se rassemblaient pour l'adorer. À l'approche de la fin de cette ère, attendez-vous à voir de puissants dirigeants politiques tenter de promouvoir Marie pour atteindre leurs objectifs. Et surveillez les adeptes de Marie qui chercheront à accroître leurs influences dans l'arène politique. Lorsque Jésus fut interpellé avec ces paroles, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, versets 32 à 35. Faites-vous la volonté de Dieu ? Dans l'affirmative, souvenez-vous que le Christ vous aime et vous estime, comme il aima Marie, sa mère. L'exemple de Marie ne devrait pas être corrompu par des idées païennes contraires à la Bible et issues de l'adoration d'une déesse païenne. Au retour du Christ, lorsque Marie sera ressuscitée en même temps que les autres véritables chrétiens, elle sera consternée par les distorsions païennes que le christianisme de contrefaçon aura promues en son nom. Cependant, les disciples du Christ peuvent et doivent suivre l'exemple d'amour et de fidélité de la véritable Marie envers son Sauveur, Jésus-Christ.